Alors, nous poursuivons notre entretien avec Martin Arnoux et Sylvain Baronne autour des problématiques de l'eau. Alors oui, la lutte que vous nous racontiez, Martin Arnoux, elle a été plutôt positive. Elle a abouti. C'est pas une lutte qui a été stérile. Elle a duré longtemps quand même. À quoi vous attribuez cette réussite? Vous avez évoqué la mobilisation locale. On aurait pu évoquer aussi, peut-être, ça a joué un rôle, le soutien des ONG, notamment du World Wildlife France. Et puis, peut-être les responsables politiques en place, ça a fait? Ou est-ce que c'est un moment historique favorable? À quoi vous attribuez cette relative réussite, ou même réussite complète, de cette mobilisation de SOS Loire Vivante?
Alors, je dirais réussite complète, parce que le compromis qui a été élaboré est un compromis optimal. Donc la réussite, il y a des ingrédients qui sont très simples. Vous en avez cité deux, la mobilisation locale et le soutien du WWF international, le PANDA. Il ne faut pas oublier, c'est très paradoxal, mais que le président du WWF international à l'époque, une très grande ONG capable de discuter avec les chefs d'État, avec les entreprises, 5 millions de membres, le président qui était rien de moins que le prince d'Angleterre, le mari de la reine Elisabeth, est venu sur la Loire dire « Vive la Loire sauvage ». Ça n'est pas rien. En 1988, vous avez une tête couronnée qui vient affirmer le soutien d'une grande organisation internationale. C'est un sacré pavé dans la mare de M. François Mitterrand, pour s'amuser un peu. Donc il y a ça, il y a un travail juridique de fond, un travail scientifique extraordinaire fait par différentes équipes françaises, européennes, pour montrer qu'il est important maintenant que sont connus les dégâts causés par l'aménagement lourd des fleuves, de préserver un écosystème en bon état qui héberge par exemple encore des poissons migrateurs comme le saumon ou l'anguille. Ça, c'est le quatrième point. Le cinquième, c'est une médiatisation très très forte, lié au savoir-faire notamment du WWF, qui fait que l'opinion publique est informée. Et le sixième, et je n'aurais pas été exhaustif, hein, mais je ne veux pas être trop long, c'est bien évidemment la détermination des acteurs avec 5 ans d'occupation permanente du site sur lequel devait être construit le barrage, des blocages de chantier, des actions, nous avons été des activistes, hein, au sens le plus noble du terme. Et pour finir, donc ça fait un septième point, des élus et un gouvernement, nous avions Michel Rocard comme Premier ministre à l'époque, qui ont compris que ce que nous faisions, ça n'était pas un truc d'écolo opposé au progrès. Bref, là Sylvain Baronne va pouvoir répondre. Nous n'étions pas dans cette période de renoncement de la part de l'État, d'institutions. Nous avions des opposants très durs, mais des hauts fonctionnaires et des élus qui avaient compris qu'il se passait quelque chose et qu'il fallait changer notre relation au fleuve.
Voilà. Alors, vous me tendez la perche pour passer la parole à Sylvain Baronne. C'est vrai que bon, il y a une lutte qui avait réussi. Aujourd'hui, ça semble beaucoup plus dur. Il y a beaucoup plus de violence, des choses qui sont très indécises du côté des gouvernants qui avancent dans les textes, qui reculent dans les pratiques. Enfin voilà, c'est qui pondent un texte puis 6 mois après, on dit bah non, on fait une. Et le rôle des chambres d'agriculture qui n'est pas neutre. Alors, peut-être, juste pour situer, quelques mots sur cette gestion de l'eau en France, hein, sur ce millefeuille administratif, si je puis dire, avec les agences de l'eau, les comités de bassin, le rôle des chambres d'agriculture, le rôle du préfet, voilà. Alors, on va essayer d'être synthétique là-dessus, parce que c'est un petit peu compliqué.
Oui, c'est une question piège. Alors, c'est vrai que c'est assez complexe, c'est-à-dire que c'est multiniveau. Les territoires habituels, administratifs, politico-administratifs, jouent un rôle dans la gestion de l'eau, donc les régions un peu, les départements plus, les intercommunalités beaucoup aussi. Mais à ces territoires politico-administratifs classiques s'ajoutent des territoires de type hydrographique. Donc il y a des instances de gestion de l'eau à l'échelle des petits bassins versants, le bassin du Lez par exemple à Montpellier. Et puis des agences de l'eau à l'échelle des grands bassins hydrographiques comme Rhône-Méditerranée, Loire-Bretagne, par exemple. Voilà. Donc chaque strate et chaque acteur a des responsabilités et des missions un peu différentes sur lesquelles je ne vais peut-être pas revenir en détail. Donc c'est une affaire complexe. En même temps, il ne faut pas que ça nous empêche d'y réfléchir. C'est-à-dire, c'est un peu l'objectif du livre, c'est-à-dire que c'est complexe. Mais ne laissons pas cette complexité aux spécialistes. Ouvrons la boîte noire de la gestion de l'eau pour voir ce qui s'y passe. Qu'est-ce que ça dit de la structuration du pouvoir, du fonctionnement de la démocratie. Et effectivement, d'autant plus aujourd'hui où l'eau fait vraiment l'objet d'une très forte polarisation sociale et politique.
Alors, on voit notamment des choses qui sont compliquées, violentes, autour des méga-bassines. Mmh. Donc, c'est pas la rivière, mais c'est quand même les ressources en eau. Qu'est-ce qui fait que la lecture vous avez, vous, en tant que spécialiste de politique autour de l'environnement, comment vous analysez cette recrudescence, on peut dire, de violence autour du problème des méga-bassines, notamment?
Alors oui, c'est la manifestation la plus visible aujourd'hui, les méga-bassines, mais je dirais que l'eau, de manière générale, fait l'objet de conflits de plus en plus forts, visibles, puissants. Alors, il y a dans le champ politique, il y a toujours eu des résistances à l'écologisation. Le livre le rappelle, c'est aussi vieux que les politiques environnementales ou que le droit de l'environnement. Il y a toujours eu des oppositions, de la part de groupes d'intérêt notamment. Il y a des formes aujourd'hui de rapprochement entre des groupes d'intérêt, je dirais, en voie de radicalisation ou décomplexés, avec tous les guillemets qui s'imposent, d'un côté, et des franges du champ politique, alors on va dire entre le centre droit et l'extrême droite, qui font un accueil assez favorable aux demandes de ces groupes d'intérêt. Et donc ça crée des conditions pour... voilà, des formes d'opposition, de renoncement, pour reprendre le titre de l'ouvrage, autour des questions environnementales. Et puis, donc, des tensions extrêmement fortes autour de ces sujets de l'eau. Et puis, du côté du mouvement environnementaliste, le sentiment, enfin, des formes de lassitude, un sentiment de... Alors, parfois, ça marche. Le cas de la Loire le montre très, très bien. Il y a des avancées, effectivement. Mais il y a aussi des formes de lassitude qui génèrent aussi des formes de radicalité du côté du mouvement environnemental. Et donc, évidemment, tout est en place pour que les conflits s'exacerbent, quoi.
Alors, là, c'est compliqué, effectivement. J'évoquais tout à l'heure les chambres d'agriculture. Donc, on pourrait peut-être essayer de dire un mot des récentes élections de chambres d'agriculture où la FNSA est sortie en recul, mais majoritaire, toujours majoritaire, avec la coordination rurale derrière. Et puis... la Confédération paysanne un peu perdue dans les choux, si je puis dire. Mais en même temps, il y a des progrès. Alors là, on arrive peut-être au moment où il faut un petit peu conclure, pour autant que ce soit possible. Il y a des choses qui semblent positives. Je me tourne vers Martin Arnoux, notamment la suite de la lutte pour la Loire. C'est une politique, ce que vous appelez d'effacement des barrages et des obstacles sur les rivières, c'est-à-dire si ça sert à rien, on privilégie cette fameuse continuité écologique. Et puis les problèmes ne sont pas finis, puisqu'il y a celui des micro-centrales. Je voyais sur Reporter, vous étiez interviewé, vous disiez il y a un problème, c'est ces micro-centrales. On encourage le développement de micro-centrales hydroélectriques, mais ce n'est pas sans conséquence.
Ah, si vous voulez, pour aller très très vite, le succès, selon moi, c'est un point de vue personnel, mais je crois qu'il est illustré dans les évolutions sociétales, en dépit des renoncements dont parle, ou des atermoiements dont parle Sylvain Baron. Je crois que ce qui a fondamentalement changé grâce au plan Loire, c'est la culture du risque naturel d'inondation. On travaille actuellement, par exemple, sur la Seine à Paris, d'une manière fondamentalement différente. Mais c'est un sujet en soi. Donc pour bien hiérarchiser, la matrice qui naît après, avec le premier plan Grand Fleuve, le plan Loire Grandeur Nature en 1994, elle a transformé d'autres cultures collectives de gestion du risque d'inondation. Ça, c'est fondamental et c'est un bel acquis de la lutte. et du travail citoyen scientifique. Pour ce qui est des microcentrales et des ouvrages hydroélectriques, pour répondre en deux mots, oui, dans le cadre de la transition énergétique, on peut penser qu'il faut continuer à produire de l'hydroélectricité, mais 90% des cours d'eau sont équipés en France et nos fleuves ne vont pas bien. Monsieur Baron le dit dans son ouvrage, hein, le bon état écologique des milieux aquatiques d'eau courante, il n'est pas là et il faut restaurer et encore restaurer. Or, au nom de la transition énergétique, vous avez des acteurs qui, quelquefois de bonne foi, quelquefois de mauvaise foi, il ne s'agit pas de porter de jugement hâtif, imposent. Ou en tout cas cherchent à imposer des ouvrages, ce ne sont pas des mégabassines, ce sont des petits ouvrages hydroélectriques, sur les derniers cours d'eau intacts qui fonctionnent bien de notre pays. Il n'y en a pas beaucoup, c'est quelques pourcents. Et c'est de notre point de vue une erreur. Et donc là, il reste encore beaucoup de cheminement collectif à faire pour montrer que la conservation des fleuves, la conservation des écosystèmes en bon état, la restauration des écosystèmes, c'est pas un truc d'écolo, mais ça sert la société. Ça permet de diminuer, par exemple, les coûts de dépollution de l'eau quand les écosystèmes fonctionnent bien. Eh bien, on a de l'eau quasiment gratuite. Et c'est tout ça dans lequel, c'est pour tout cela qu'il reste encore beaucoup de chemin collectif à accomplir ensemble.
Alors, merci beaucoup. On va juste donner le mot de la fin, mais rapide, excusez-moi, à Sylvain Baron. Quelle perspective vous voyez suite à l'élection des chambres d'agriculture, où je le disais tout à l'heure, la FNSEA est toujours majoritaire et n'est pas forcément très sensible aux questions environnementales?
Oui, alors le contexte n'est pas extrêmement favorable à l'écologisation, hein, on va dire. Le contexte politique général n'est pas très favorable. Il ne faut pas... Alors, l'ouvrage documente beaucoup ça, hein, tous les freins, les obstacles qui se dressent devant des progrès vers l'écologisation. Ça ne doit pas être nous empêcher d'agir. Et je pense que dans ce contexte très très contraint, et plus que temps est utile de se mobiliser collectivement, de créer des alliances, la Loire est un bon exemple pour ça, pour avancer collectivement vers la protection des écosystèmes.
Ce sera notre conclusion, votre conclusion. Merci beaucoup Sylvain Baron, merci Martin Arnoux au téléphone, et puis nous pourrons vous voir, nos auditeurs pourront vous voir jeudi à la Cavale à 19h. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci à vous.